Monseigneur Emmanuel Lafond, vous venez de sortir en collaboration avec Jean Cormier un livre qui s'appelle « Le curé de Soweto ». Dans ce livre, vous parlez de votre grande expérience et de votre témoignage et vous parlez aussi, dans un régime répressif comme celui qu'a connu l'Afrique du Sud, l'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit même de l'opprimé ou bien, on peut dire, l'aliénation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
Oui, qu'est-ce que ça veut dire quand Steve Biko dit que cette arme dans la main de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé ? Il veut dire lorsque l'opprimé se voit à travers les lunettes de l'oppresseur. C'est-à-dire que l'opprimé intègre le regard de l'oppresseur sur lui, qu'il se dit, comme les autres, ben, je suis nul, je serais incapable d'être libre. Il n'y a pas un noir pour diriger un pays, nous en sommes incapables. Il n'y a que les blancs qui savent faire les choses. Tant que le noir pensait ça, eh bien, le blanc avait belle vie. De la même manière, dans beaucoup de pays du monde. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'opprimer quelqu'un, il faut insuffler dans son esprit un complexe d'infériorité. Alors ça, je l'ai vu chez beaucoup d'Africains. Comme je le vois encore, c'est une des séquelles majeures de l'esclavage. C'est cette espèce de complexe d'infériorité, inconscient souvent, mais qui fait que soit on va chercher à imiter les anciens maîtres, donc jusqu'à la caricature, soit on finit par ne pas avoir confiance en soi, parce qu'on n'a jamais trouvé quelqu'un qui vous a donné confiance en vous-même.
Alors justement, je crois que c'était un grand visage d'humanité qui est arrivé avec Nelson Mandela. Vous l'avez rencontré ?
Alors bien sûr, avec Nelson Mandela, mais avec beaucoup de gens quand même avant. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en 83 et je n'ai cessé de vivre avec des gens qui avaient rejeté cette vision-là, d'ailleurs à l'instigation de Steve Biko, qui lui est un des éveilleurs de ce qu'on appelait la conscience noire dans les années 70. Ce qui est magnifique, c'est l'humanité invraisemblable de ces gens-là et que Nelson Mandela a porté d'une certaine manière à l'excellence. Une des phrases les plus fortes de la culture sud-africaine noire, c'est cette phrase qui dit que « on ne peut être humain » qu'à travers les autres êtres humains. C'est-à-dire que ce sont les autres qui vous rendent vous-même humain. On ne peut être une personne que grâce aux autres personnes. Et donc, il y a une conscience très grande de la solidarité que nous avons les uns avec les autres et du fait que nous ne pouvons pas nous construire seuls, mais que nous nous construisons à travers les autres et grâce aux autres, en même temps que nous apportons ce que nous-mêmes avons reçu comme talent. C'est un peu l'histoire de l'allégorie du corps dans la première lettre aux Corinthiens. Et Nelson Mandela a porté cela à l'excellence, manifestement. Il avait eu une éducation royale, si j'ose dire. Il appartenait à une grande famille. Et puis, les 27 ans qu'il a passés en prison, j'allais dire, comme purifié encore cette capacité d'humanisme. Ce qui a été extraordinaire chez Mandela, c'est qu'en prison, il a finalement commencé à apprendre qui était son adversaire. Il a côtoyé les Blancs tout le temps, qui étaient ses gardiens, ses chefs. Il ne les connaissait pas jusque-là, puisque l'apartheid, c'était précisément qu'on ne vivait pas ensemble. Et il a étudié les Blancs, il s'est rendu compte de quelles étaient leurs valeurs et aussi quelles étaient leurs faiblesses. Et il a voulu construire le dialogue avec eux après sa sortie de prison en prenant en compte les valeurs que les Blancs pouvaient avoir et en, non pas en utilisant, mais en tenant compte aussi de leurs faiblesses et de leurs craintes. Et il disait d'ailleurs lui-même, nous n'arriverons pas à nous libérer si nous ne prenons pas en compte la peur que les Blancs ont de nous voir nous libérer. Et ça, c'est magnifique. C'est quelque chose d'assez fort. Au fond, il avait un respect de son adversaire. En cela, il était profondément évangélique.
Vous dites aussi, dans votre livre, que vous avez vécu avec les Blancs, avec les Noirs. Maintenant, Monseigneur Lafond, vous êtes en Guyane. Là, l'expérience est autre. Est-ce que cette expérience de l'apartheid vous a transformé, certainement, mais est-ce que vous voyez qu'est-ce qui vous a transformé pour pouvoir vivre encore mieux en Guyane ?
Quand j'étais en Afrique du Sud, j'avais appris le Notre Père et le Je vous salue Marie en afrikaans, qui était la langue des Blancs, pour dire tous les jours une dizaine de chapelets pour mes ennemis. Actuellement, je dis le chapelet en partie en brésilien. Et j'essaye, je n'y arrive pas à l'apprendre, à le lire en Shralantongo, qui est la langue du fleuve. Mais j'ai commencé à apprendre le Notre Père et le Je vous salue Marie. Alors ça, ce n'est pas pour mes ennemis, c'est pour ceux auprès desquels je suis envoyé. Bien sûr que l'expérience sud-africaine m'a profondément marqué et qu'elle m'aide aujourd'hui beaucoup. J'ai beaucoup d'attention et je fais tout ce que je peux pour faire que les catholiques de Guyane se connaissent et se rencontrent. Et je suis vraiment très heureux de ce qui est en train de se passer. Nous avons vécu deux synodes à deux années de distance, chacune de 2 jours et demi. Et pour la première fois, j'ai vu des catholiques du littoral, de l'île de Cayenne, aller en délégation dans des villages du fleuve dans lesquels ils n'étaient jamais allés. Il faut soit prendre l'avion, soit la pirogue pour y aller. Et ça s'est répété 2 fois cette année. C'est la première fois. Et les échos que j'ai eus de ces rencontres entre des gens de paroisses différentes et qui sont directement issus de l'expérience du synode sont profondément encourageantes. Je ne vais pas passer Noël dans ma cathédrale. Je vais aller dans le village le plus bas de la Guyane, qui s'appelle Antecumpata, enfin en tout cas sur le fleuve Maroni, car je vais baptiser un couple de Wayana, d'Amérindiens Wayana, que je connais depuis 7 ans, et qui demandent le baptême et le mariage. Ils ont 3 beaux enfants, et vraiment c'est pour moi une joie profonde, et je les ai vus il y a quelques jours. On a discuté un petit peu, on va faire en sorte que le baptême ait lieu le 22 décembre, de manière à ce que des paroissiens de Maripasoula puissent prendre la pirogue et venir jusqu'à Antecumpata, il y a 2 heures de pirogue, pour que ce baptême soit vraiment un baptême à l'intérieur de l'église, même s'il n'a pas lieu dans une église, il n'y en a pas là-bas. Mais je vais passer Noël là. Et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement fort, parce que la première fois que je suis allé dans ce village, aucun prêtre n'y était allé depuis au moins 8 ou 9 ans. De mémoire d'homme, il n'y avait pas de chrétien dans ce village. Et voilà qu'aujourd'hui, un couple par lui-même demande, et pour lui et pour ses enfants, le baptême. Et ça, c'est ce goût d'une mission qui ne se satisfait pas qu'il y ait des gens à l'extérieur et qui ne se satisfait même pas d'une église qui ne soit pas suffisamment ouverte pour se déplacer vers ceux qui sont les plus loin et qui ont le plus de difficultés eux-mêmes à se déplacer, n'est pas la véritable église de Jésus-Christ. Et il ne s'agit pas seulement de le vivre dans l'église, il faut que ça soit comme une espèce de signal pour que la Guyane tout entière se rassemble en accueillant les gens des différentes cultures. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a 3 Amérindiens dans l'évêché, 3 jeunes Amérindiens. Et ces jeunes Amérindiens, lorsqu'ils sont sur le littoral, sont largement à côté de tout ce qui se passe, ne se sentent pas véritablement ni accueillis ni intégrés. Et nous avons là un travail énorme à faire si nous voulons que la Guyane se construise avec tous, et non pas sans une portion de la population, et souvent la population qui a déjà le moins de chances ou le moins de capacité d'intégration de par toute son histoire.
Vous venez d'employer une expression, Mgr Lafond, construire avec tous. Comment est-ce que justement se construire avec tous est-il possible? Quel est votre regard sur ce qui se passe en ce moment en Occident?
Ma pensée profonde, c'est que le prophète qu'il faut à l'Occident aujourd'hui, c'est Jérémie. C'est-à-dire celui qui, malgré son tempérament, n'a pas eu d'autre message à dire à son peuple. Vous avez abandonné votre Dieu, vous avez pris des idoles comme modèle, vous n'avez pas respecté le droit, vous n'avez plus la force morale nécessaire pour tenir face aux défis qui sont devant vous. Il va se passer au milieu de vous des désastres majeurs, et alors vous comprendrez. Eh bien, je crois que nous allons vers des crises de plus en plus fortes en Occident, et c'est sans doute à travers ces crises seulement que nous retrouverons l'être qui nous manque et qui nous empêche d'ailleurs d'échanger à égalité de respect avec le reste du monde et à vouloir vraiment construire une société pour tous et avec tous, et pas seulement en profitant des autres sans qu'ils ne puissent profiter de nous.
Vous avez été à Rome à l'époque du Concile Vatican II, à l'époque du discours de Jean XXIII, qui a dit non aux prophètes de malheur, au cœur de l'Église. Comment est-ce que vous articulez ce regard un peu réaliste de Jérémie sur l'Occident aujourd'hui et cette initiative de Jean XXIII dans son discours?
Votre question m'intéresse beaucoup parce que, comme j'essaye d'écrire un livre sur cette question, et dans l'introduction, je reparle de ce discours de Jean XXIII. Est-ce que Jésus, annonçant la ruine du Temple, était un prophète de malheur? Non. Le prophète de malheur est celui qui désespère de tout. Quand Jésus dit que le Temple va être ruiné, il ne dit pas que tous les gens de Jérusalem sont des mauvais garçons, mais il dit que la situation sociale et politique et religieuse créée ne permet pas au peuple de tenir ferme, uni, face aux défis qu'il a à faire. Et effectivement, 30 ans plus tard, ce sera le désastre d'une rébellion qui se terminera dans le sang, dans la destruction de Jérusalem et du Temple. Et l'histoire n'a pas fini avec ça. Mais certainement qu'il a fallu cela pour que même le judaïsme, d'ailleurs, trouve un élan nouveau, différent, que nous connaissons encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'annoncer que tout est fichu, il s'agit d'éclairer. Et en même temps, je pense que Jérémie souhaitait de tout son cœur que ce qu'il prévoyait n'arrive pas. Et on souhaite de tout notre cœur que l'Europe ne diminue pas et ne s'affaiblisse pas. comme on le voit qu'elle le fait aujourd'hui. Mais en même temps, il faut être sérieux. Nous vivons au-dessus de nos moyens depuis des années. Ça ne peut pas durer. Ou bien nous acceptons de changer notre style de vie. On a vu des personnes changer leur style de vie. On a vu un Saint-François d'Assise abandonner toutes ses richesses. On a vu un Charles de Foucault abandonner toutes ses richesses. On a vu une Mère Teresa partager tout ce qu'elle avait. Mais une société comme telle, la plupart du temps, elle ne le fait qu'à travers un traumatisme qui lui arrive de l'extérieur parce qu'elle n'a pas su le faire par elle-même. Le diagnostic que pose Jérémy sur son temps est celui, je crois, qu'il convient de poser aujourd'hui face à l'Occident.
Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur comment vous vivez cela en Guyane?
Je viens de créer un petit comité de réflexion sur la question de l'emploi. La société guyanaise vit avec une jeunesse dont près de la moitié n'a pas de travail. C'est inacceptable. Et donc j'essaye de rassembler autour de moi un certain nombre de gens du domaine économique pour réfléchir de quelle manière éveiller la conscience en disant « Nous ne pouvons pas continuer de vivre comme si nos jeunes n'avaient pas d'espérance. Il faut cesser de croire que l'on peut continuer de gaspiller la terre à tout crin. » Donc il y a vraiment une révolution copernicienne de notre manière de vivre, de notre manière de partager les biens de cette terre, de partager le droit au travail, qui est urgent, faute de quoi nous irons vers des difficultés que nous ne saurons pas affronter sans dégâts énormes.